CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
On va maintenant parler de taffeta. Ça a l'air d'être un joli nom, d'un beau tissu, mais pas du tout. C'est un sigle qui fait peur parce que quand on le décortique, ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en rend compte qu'on est peu de choses face à la façon dont le monde se profile. On a Daniel Favary en studio pour nous évoquer ça. Daniel Favary est juriste de l'environnement et du droit européen de l'environnement. Elle a écrit un livre récent qui s'appelle Europe États-Unis, les enjeux de l'accord de libre-échange, les coulisses du TAFTA, et c'est pour expliquer ça à nos auditeurs qu'elle est là, présente en studio. Bonjour, Madame Favary.
Bonjour, Monsieur Béricas.
Alors, il faut tout nous dire, parce que vous savez ce que c'est, hein, on est en voiture, on écoute, il y a de la musique, et d'un seul coup, il y a des gens qui parlent, ils parlent de choses très sérieuses, qu'on ignorait la plupart du temps. Parce que c'est très secret, cette négociation.
Qu'on ignore à tel point que même les eurodéputés qui sont censés ratifier ce traité en fin de négociation ne sont pas au courant du contenu des documents, lesquels sont enfermés dans des salles de lecture. Enfin, ils y ont accès de façon assez brève, puisque les documents sont enfermés dans des salles de lecture, dans les ambassades américaines, dans des coffres, alors qu'ils sont censés ratifier, comme je l'ai dit, donc le traité en fin de négociation à partir du moment où il sera signé par le Conseil européen des ministres des 28 États membres.
Alors déjà, ça pose un problème parce que l'un des protagonistes impose son droit sur le thème « Attendez, on parle pas de ça, ça ne fuite pas, personne n'en cause tant que... »
Que ce soit d'ailleurs dans l'Union européenne que aux États-Unis, les membres du Congrès n'ont pas accès à ce traité dont les gouvernants veulent aller très vite au niveau de la signature et de la conclusion, à telle enseigne que François Hollande voulait qu'il soit signé avant fin octobre 2014, date de la fin du mandat de José Manuel Barroso et de l'actuelle Commission européenne, et en tout état de cause il le sera avant la fin du mandat de Barack Obama en 2017, ce qui n'empêche pas qu'à partir du moment où il y a signature, il y aura les mesures qui auront été prises au niveau communautaire qui entreront en application.
Jack, notre collègue de CFM Corse est dans les studios aussi, et il se passionne sur comment va le monde.
En plus des questions environnementales, là ça m'intéresse encore plus, mais je me demandais avant même de rentrer dans les points précis du TAFTA, des accords de libre-échange, pourquoi négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis? Pourquoi est-ce que l'Europe négocie un accord pareil, en secret bien sûr, mais pourquoi?
C'est une très bonne question, parce qu'en fait, on se demande effectivement pourquoi, parce que normalement, donc, alors, déjà au départ, il faut faire un petit retour en arrière sur ce qui concerne l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui est née en 1995, après les accords du GATT. Et il semblerait que on soit là dans un contexte où les États-Unis veuillent la chute du mur, la fin de la guerre froide et l'éclatement du bloc soviétique, leur montée en puissance, veuillent accroître encore leur hégémonie sur le monde en imposant des normes environnementales mondiales.
Donc à la question de Jacques, c'est pas vraiment l'Europe qui négocie les États-Unis, c'est les États-Unis qui souhaitent prendre le marché européen et l'Europe va essayer de limiter les dégâts peut-être?
Paradoxalement, l'Union européenne était plus en demande que les États-Unis qui ont mis 18 mois à s'asseoir à la table des négociations. Mais la question de pourquoi, effectivement, on peut se la poser, parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial des États-Unis et inversement, elle a en direction des USA un excédent commercial de 125 milliards qui est constitué pour la plupart par l'Allemagne qui est extrêmement performante. Donc, on est dans une situation, effectivement, où on peut se poser la question. L'un des objectifs principaux est la suppression des droits de douane qui sont extrêmement peu élevés, sauf sur les produits agricoles. C'est la raison pour laquelle on a peur de l'arrivée sur le marché du bœuf aux hormones, puisque du poulet chloré, comme on le dit, et autres composantes très, très appétissantes. Puisque les droits de douane sont censés protéger de la concurrence extérieure le marché intracommunautaire qui a été créé au sein de l'Union européenne. D'autant plus que contradictoirement, les États-Unis, eux, sont plus protectionnistes que nous le sommes, puisqu'ils disposent donc de ce qu'on appelle le Buy American Act, qui impose aux États fédérés d'acheter 23% des produits fabriqués sur le territoire des États-Unis, ce qui n'existe pas dans l'Union européenne, en fait. Voilà.
Donc, des droits de douane qui sont supprimés ou amoindris pour
supprimés complètement
au niveau des restrictions, en fait, au niveau des au niveau des exigences sur certains produits que l'Union européenne s'appliquait actuellement, ce sera également revu. Vous avez parlé de la performance de l'Allemagne. Est-ce que ce traité n'est pas à double échelle ou à différentes échelles pour l'Union européenne où, je veux dire, le Luxembourg et l'Allemagne n'ont pas les mêmes intérêts à commercer avec les États-Unis? Et on se rend compte que l'Union européenne est embarquée dans une négociation, mais où chaque pays européen ne va pas forcément tirer son épingle du jeu. Les Allemands commercent déjà ou échangent très bien avec les États-Unis. Est-ce que ce traité ne va pas permettre aux Allemands d'asseoir leurs échanges avec les États-Unis une bonne fois pour toutes?
Alors, il faut savoir, et donc on refait un petit retour en arrière, que c'est en 1990 que cette idée d'accord de libre-échange a vu le jour. Il a été conforté par, effectivement, Angela Merkel, lors de sa présidente tournante de l'Union européenne en 2007, par la création d'un comité économique transatlantique. Bien entendu, le marché communautaire n'est pas censé bénéficier à la même échelle de des retombées ou des conséquences qu'on nous présente comme positives de cet accord de libre-échange. Positif, pourquoi ? Parce que la Commission européenne, il faut savoir que celle-ci a le pouvoir d'initiative législative et qu'elle est également un organe d'exécution du Conseil européen. C'est, à mon avis, quelque chose d'assez étonnant quand on remet dans les mains d'une seule et même organisation à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais les retombées, effectivement, sont censées représenter 119 milliards pour les consommateurs européens du fait de la suppression des droits de douane. 119 milliards qui sont issus d'une étude qu'a diligentée et mandatée la Commission européenne, qui représente 0,5% du PIB de l'Union européenne. Et pour le consommateur, par la suppression des droits de douane notamment, donc